applaudir avant de commencer à parler. Au moins, il y a ça. Merci pour la présentation, Pasteur Réal. Comme Pasteur Réal l'a mentionné, je suis un pasteur d'arrière-plan baptiste, et puis depuis qu'on est ici à l'Église, la Bible parle, on apprend beaucoup de choses. Puis comme là, on a commencé à apprendre le sens du mot « intuition ». Souvent, on entendait Pasteur Réal dire « ben là, j'ai une intuition ». Puis dans le milieu où je viens, on n'a pas beaucoup d'intuition. Tout est réglé d'avance, tout est organisé, j'apprends à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce sens, cette phrase-là, ou cette expression-là, qui pour moi, auparavant, était étrangère. Puis à mesure que le temps avance, je vois des situations où le pasteur Réal a des intuitions, ou pasteur Jeff a des intuitions qui changent le message ou qui changent l'orientation sur la base d'une intuition. Et puis, je vois le résultat que ça donne, puis je vois que Dieu est en arrière de ça. Puis tantôt, en écoutant Pasteur Réal, je pense que j'en ai eu une. J'ai ressenti une intuition. Il m'est apparu que peut-être qu'il y a une fenêtre qui se présente devant moi maintenant pour rendre un hommage particulier. En fait, je ne sais pas pourquoi, moi, je me suis toujours imaginé en tant que pasteur qu'à un moment donné ou un autre, j'aurais l'occasion de venir prêcher ici en avant. mais je me suis toujours imaginé que ça se passerait dans un cadre où pasteur Réal est malade et pasteur Jeff est à l'extérieur, ils ont besoin de quelqu'un, ils vont m'appeler à la dernière minute, puis je vais essayer de me tenir prête au cas où, pas que je cherche après ça, j'ai un travail à temps plein puis tout ça, mais je veux servir, je vais être utile dans l'Église, je vais me préparer. Fait que je me préparais à ça. J'ai comme monté une espèce de petit scénario, puis je vais me tenir prête à ce que ça arrive de cette façon-là. Comme le Seigneur respecte rarement nos scénarios, ce matin, je suis là pour la première fois, puis pasteur Réal puis pasteur Jeff sont là à me regarder. C'est un peu intimidant, mais... Mais en même temps, je profite de l'occasion pour mentionner que, à partir d'ici, moi et Maryse, parce qu'on s'en parle, on a reçu beaucoup de réconfort, beaucoup de consolation, beaucoup de vérité, beaucoup d'encouragement dans notre foi. Et on veut reconnaître le travail que vous faites au niveau de la prédication. Et si je sais que le message vient d'en haut, je le sais qu'il vient d'en haut, mais merci d'être ici pour faire le relais. C'est vraiment encourageant. Le titre du message de ce matin, c'est « Vivre l'Évangile ensemble ». En relisant mes notes, j'ai dit, puis en réfléchissant, j'ai dit « Vivre l'Évangile ensemble », c'est un peu un euphémisme, parce que, dans un sens, l'Évangile oblige obligatoirement une réconciliation, puis une incorporation. Forcément, l'Évangile, c'est vivre ensemble. Puis vivre ensemble, c'est forcément l'Évangile. Alors, j'aurais tout aussi bien donné le titre « Vivre ensemble selon la réalité de l'Évangile ». En 1977, j'avais 16 ans, et je vous donne un bout de mon témoignage personnel. J'avais 16 ans, et le 24 juin 1977, j'étais sur le Mont-Royal. C'était la fête nationale des Québécois, puis dans ce temps-là, ça se faisait sur le Mont-Royal. J'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé là, mais j'étais là, je le sais. Et puis, il y avait une ferveur nationaliste dans ce temps-là incroyable. Et tout le monde était engagé dans cette ferveur-là pour un nouveau pays. Puis moi, j'avais 16 ans, puis j'étais entraîné dans cet idéal-là. Et puis, quelques semaines plus tard, je suis allé rencontrer... je suis allé voir quelqu'un en prison. C'est un peu bizarre parce que je suis aumônier maintenant, je travaille dans une prison, mais mon témoignage commence dans une prison à Archambault, ici, où certains d'entre vous vont aller... J'ai pris 16 ans, j'avais 16 ans, j'ai pris l'autobus, puis je suis allé rencontrer quelqu'un là-bas qui a commencé à m'annoncer l'Évangile parce qu'il venait de recevoir l'Évangile à travers des bénévoles qui allaient en prison. Et il m'a annoncé le message de l'Évangile et puis il m'a encouragé à aller visiter une église à Laval qui était l'église des bénévoles qui venaient le voir. Alors moi, je suis allé à cette église-là. J'allais là le vendredi soir à une réunion jeunesse et il y avait des jeunes qui étaient là, mais en fait, c'est pas juste l'idée de se rendre dans une église, dans une réunion jeunesse qui fait qu'on est parti, on fait part du royaume des cieux ou qu'on se convertit. C'est juste que je suis arrivé là, puis tout de suite, j'ai senti un malaise par rapport aux gens qui étaient là, qui chantaient des chansons un peu genre Kumbaya. Et qui connaissait pas Harmonium, ni Beau Dommage, ni Led Zeppelin, ni Pink Floyd. Alors, il y avait comme une espèce de rapport bizarre, malaise. Mais je suis allé là, je pense que je suis allé là deux fois. Et puis, moi-même, je détonnais avec le groupe qui était là, des gens tous bien, bien rangés. Moi, tu sais, côte de jean, le paquet d'exporté, les cheveux longs, puis... la barbe, puis le commencement de barbe. J'avais 16 ans, je vous le rappelle. Mais je suis allé à deux reprises, puis à un moment donné, je suis allé tout seul chez moi avec les lectures qu'ils m'avaient données. En tout cas, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais j'ai rencontré Christ. J'ai eu une perception de qui est Christ qui a changé ma vie. Je lui ai donné ma vie. Je sais que je l'ai faite parce que j'ai écrit une lettre que j'ai encore chez nous qui tombe en ruine dans un papier cartable où je demande à Dieu de prendre ma vie qui est datée du 17 novembre 1977. Mais je ne me rappelle pas du tout comment ça s'est fait, là, mais il y a une lettre qui est là. Là, puis ça a l'air d'être mon écriture. Puis à partir de ce moment-là, bien, je suis retourné à cette réunion-là. Puis je me rappelle, je suis arrivé 45 minutes d'avance. Pas mon genre d'arriver d'avance, là. Mais j'avais tellement hâte, c'est venait de se passer quelque chose, j'avais envie de le partager avec quelqu'un, puis j'avais comme l'impression que ces gens-là étaient pour comprendre. Fait que j'attends sur le perron de l'église, à rue Vallière, à Chomedey, et puis j'attends, puis là, il y avait une fille qui jouait de la guitare, qui faisait l'animation pour les chants. Et puis, quand elle est sortie de l'autobus, elle est sortie avec 3-4 autres chrétiens, puis elle s'en venait vers l'église. Là, moi, je suis parti à courir, j'ai sauté d'un bras. Là, elle était là. OK. Je l'ai revue 30 ans plus tard, là, puis elle trouve ça bien drôle, là, mais elle a vraiment eu peur. T'sais. Mais moi, je vivais quelque chose... J'étais comme tout d'un coup, j'étais devenu, je comprenais qu'est-ce qu'il vivait, je faisais partie de ce groupe-là tout d'un coup, alors qu'à un moment donné, j'étais complètement étranger à ça. Il s'est passé quelque chose de miraculeux. C'est l'Évangile. Deux semaines plus tard, notre pasteur, M. Murray Héron, qui était un homme très, très cela, et très encourageant dans la foi, puis il nous poussait souvent. Fait que, il dit, écoute, on s'en va faire une présentation en Ontario, puis j'emmène le groupe de jeunesse, embarque avec nous autres, puis on va aller là-bas, puis tu as juste à nous suivre. Puis moi, tu sais, j'avais encore des relents de nationalistes, puis moi, à Toronto, les Anglais, c'était pas mon bague, là, mettons, là, tu sais. Mais parce que M. Héron me le demandait de le faire, j'embarque dans l'auto, puis je pars avec le groupe de jeunesse, puis là, on est couché chez des gens, je comprends absolument rien ce qu'ils disent, parce qu'ils parlent en anglais. À ce moment-là, je parlais pas anglais. Et puis, à un moment donné, l'église commence. Là, je suis vraiment impressionné, parce que je viens du Québec, puis les églises sont vides, là. Et puis, il y a tout un contexte catholique au Québec qui n'était pas du tout la même affaire à ce moment-là. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas rien. C'était plein de monde, puis il y avait l'air d'avoir du fun. Alors là, j'étais comme impressionné. Fait que là, M. Héron, il parle un peu en avant. À un moment donné, il se tourne, puis il me dit, « Guy, est-ce que tu viendrais donner ton témoignage? » OK, là, le monde est là. Tu sais, je peux dire non, là, mais je dis OK, là, tu sais. Fait que je m'en vais en avant, puis là, je commence à parler, puis là, lui, il traduit. Mais il y avait comme une atmosphère, là, à découper au couteau. Les gens, ils riaient. Moi, j'avais l'impression que je disais des affaires bien ordinaires, mais quand lui, il traduisait, c'était extrêmement drôle. Il y avait du fun, puis il se pliait à terre, puis il riait, puis c'était comme dans un rêve, là. J'ai dit, où je suis, là, moi? Puis, quand la réunion a été finie, là, j'ai eu droit à un échange d'affection extraordinaire. Les vieilles madames, ils venaient me voir, puis ils m'embrassaient, puis ils me donnaient des becs, puis ils trouvaient ça... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me disaient, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était indisable qui se passait dans la relation. Puis c'est ça l'Évangile. C'est qu'à un moment donné, on est réconcilié avec Dieu. Puis on est incorporé dans son corps. Mon intention ce matin, c'est de vous démontrer comment la réconciliation avec Dieu et notre incorporation dans son Église influencent nos relations et notre comportement social. Ma prière est que la compréhension de ces réalités façonne le modèle du vivre ensemble de l'Assemblée de la Bible parle. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Colossiens. Colossiens 1, versets 18 à 22. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Seigneur notre Dieu, on veut s'approcher de ce texte avec humilité. On voudrait comprendre ce texte avec l'aide de ton Esprit Saint. Comme il est dit dans Éphésiens, « Donne-nous, Père, un esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître Christ, nous approcher de lui, et que nos vies soient transformées par la connaissance de ton nom. » Amen. Je voudrais ce matin rapidement évoquer dans votre esprit trois vérités qui sont présentes dans le texte et qui sont le fondement de l'Évangile et du christianisme. Premièrement, Dieu est devenu humain. Deuxièmement, l'Église est le corps de Christ. Et troisièmement, Christ est la tête de ce corps. Ces trois réalités saisies par la foi produiront d'une façon de vivre ensemble entre nous, à la Bible parle, qui sera conforme à l'Évangile et qui honorera Jésus-Christ. Dieu, premièrement, Dieu s'est fait homme. Tout le monde sait ça. Tout le monde comprend ça, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile depuis des siècles. Dans l'Église, depuis les pères de l'Église jusqu'à encore aujourd'hui, il y a beaucoup de débats parce qu'on a beaucoup de difficultés à contenir l'idée que Jésus-Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu. Il y a eu des conciles qui ont été faits là-dessus, le concile de viens-tu de me voir? Ben oui. de Chalcédoine qui a eu lieu en 451, où, qui a fait beaucoup jaser, où on essayait par toutes sortes de phrases de définir cette notion de façon compréhensible que Dieu s'est fait homme et tout en étant parfaitement Dieu. Fait que là, on a développé une façon de décrire en plusieurs phrases ce fait-là, que la réalité que Dieu s'est fait homme, parce que c'est le fondement de l'Évangile. Je me rappelle, il y a quelques années, je suivais souvent des cours de Dr. Carson, Donald Carson, et on a suivi un cours qui s'appelait « Le ministère selon l'Évangile ». Et puis, avant de commencer le cours, il nous a posé une question, qu'on devait faire un travail, puis la question, c'était de décrire l'Évangile dans un paragraphe. Puis, il fallait écrire ça. Fait que là, tout le monde essayait de décrire l'Évangile selon un paragraphe. Fait que là, il y a plusieurs notions. Mais c'est complexe, c'est vague. Pour ça, il nous dit d'écrire l'Évangile dans une phrase. Ah, OK, là, ça se précise. OK, là, on commence à avoir toutes sortes d'idées. Puis après ça, il a dit d'écrire l'Évangile dans un mot. Fait que là, quand on essaie de comprendre, de décrire l'Évangile, là, il y a une centaine d'étudiants, je vous assure qu'il y avait beaucoup de neurones qui étaient en fonction pour essayer de décrire. Puis on a tout éliminé, on a éliminé à peu près 30 à 40 suggestions qui ont été faites, une après l'autre. Dr. Carson, il démolissait carrément en montrant que c'était pas ça l'Évangile. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Jésus ». Il a dit, c'est pas ça l'Évangile. Jésus, c'est un homme. Il y a quelqu'un qui a dit, Christ, non, c'est Dieu. C'est Jésus, trait d'union, Christ, qui est l'Évangile. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est ça, pleinement l'Évangile. Dieu n'est pas une idée, un principe, un programme, une croyance universelle ou une loi. Dieu est devenu humain. Christ n'enseigne pas une éthique abstraite qui doit être effectuée coûte que coûte. Christ n'est pas essentiellement un enseignant, un législateur. Je dis essentiellement parce que Christ a enseigné. Christ a parlé avec des docteurs de la loi, mais il n'est pas essentiellement ça. Mais il est un être humain, un véritable être humain comme nous. En conséquence, Christ ne veut pas que nous soyons avant tout les élèves, les représentants, les défenseurs d'une doctrine particulière, mais des êtres humains, de vrais êtres humains devant Dieu. Ce qui reste de Christ, ce qui est écrit de Christ dans le passage qu'on vient de lire, c'est que c'est un être humain qui, par sa mort, qui est venu offrir sa vie, puis par sa mort, nous a réconciliés avec Christ. C'est ça l'œuvre de sa vie, c'est d'avoir été un être humain, puis d'offrir sa vie pour nous. Alors, l'Évangile est basé sur le fait que Jésus-Christ est un être humain. Et souvent dans ses enseignements, Il parlait de son humanité au travers des personnages fictifs, des paraboles. Prenez par exemple la parabole du bon samaritain. Un docteur de la loi qui passe devant une personne humaine qui est dans la difficulté, qui est dans un fossé, qui saigne, qui s'est fait battre, qui est presque mort, à demi-mort, qui est écrit. Puis un docteur de la loi passe, puis... Je ne sais pas si M. Venneman est là, j'ai rien contre les docteurs, là, mais il passe devant lui et qui continue son chemin. Puis un lévite qui passe devant un homme, probablement un juif, qui est dans le fossé, puis qui est vraiment dans la condition humaine la pire, où il a besoin vraiment d'aide, en détresse, puis il passe son chemin. Puis un samaritain qui, techniquement, c'est les ennemis des juifs, qui lui se met à genoux, va aider la personne, nettoie ses blessures, il se lève, il s'en va vers sa monture, il prend de l'huile, il verse de l'huile, il fait ce qu'il faut, il fait ce qui est approprié, il fait ce qui est humainement raisonnable. Je ne sais pas si, docteur Côté, vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait comme soin, là, mais il a posé des gestes appropriés envers lui. Et plus que ça, il l'a pris, je ne sais pas si c'est quand même assez compliqué, moi je ne serais pas capable de faire ça, mais quand même assez compliqué pour prendre un homme de 150 livres, 200 livres, puis de le prendre, puis de l'embarquer sur sa monture. Mais il a quand même posé ce geste-là, puis il l'a amené, puis il a mis la main dans sa poche, puis là, il a sorti de l'argent, puis il a donné ça à... Attends une minute, là. C'est un personnage littéraire. Ça existe-tu vraiment, quelqu'un comme ça? T'sais? Quelqu'un qui va poser, qui va donner à son ennemi? Christ n'est pas un personnage littéraire. C'est un homme qui est venu donner sa vie. Le Père qui se fait dire par son fils, « Donne-moi tout mon héritage, je veux rien savoir de toi, je veux rien savoir de ta business, je veux m'en aller, puis donne-moi tout ça. » OK, donne ça. Il part, puis il revient après avoir tout dépensé. Le père qui part à courir, puis qui saute d'un bras de son fils, puis il l'écoute même pas. Lui, il veut se racheter, il dit, hey, « Je vais travailler pour toi, puis je vais te rembourser. » Il l'écoute même pas. Il dit oui, puis il va chercher un agneau, puis il fait un party, puis ça existe-tu vraiment, ça? Quelqu'un qui se fait humilier par son fils, puis qui donne tout. C'est un personnage littéraire, mais c'est Christ qui vient donner sa vie, qui vient sans jugement donner sa vie pour que tout le monde, peu importe le péché, qui a commis, puisse être réconcilié avec son Père. C'est dans son humanité que Christ nous a réconciliés. Le temps passe. L'Église est le corps de Christ. Le corps physique est la forme réelle, la manifestation biologique, tangible, d'une personne. Nous voyons dans les actes que Dieu a l'intention de prendre forme dans des humains réels. Je dis ça, on voit dans les actes, parce que dans les actes, on voit que Jésus est élevé au ciel, et puis acte 2, le Saint-Esprit qui descend sous des formes de l'âme, puis là, à un moment donné, Pierre, rempli du Saint-Esprit, il commence à prêcher l'Évangile, puis tout à coup, le Pierre qui n'était pas capable de dire que Jésus-Christ... Qui était le disciple de Jésus-Christ, il commence à dire à toute la foule qui est là, « Celui que vous avez crucifié, là, il y a 40 jours, là, ben c'était le Christ! » Fait que là, il y a une nouvelle assurance remplie du Saint-Esprit qui l'engage, puis là, les gens l'écoutent, puis ils disent, « Oh, wow, attends une minute, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, Pierre, aide-nous, là, qu'est-ce qu'on a? On a crucifié le Christ, qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, mais ils se sont tous fait baptiser cette journée-là. Je sais pas comment, techniquement, là, il doit avoir un ministère de l'accueil assez important, là, pour pouvoir organiser tout ça, mais en tout cas, ils l'ont fait, là, puis là, à partir de ce moment-là, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu des cours d'ecclésiologie, comment organiser l'Église, quoi que ce soit. Naturellement, ils se sont rassemblés ensemble. Où tu restes, on va aller chez vous. Bang, on arrive, puis on est chez vous, puis ils partageaient tout ensemble. Puis ils allaient dans les rues, puis ils allaient dans les parcs, un peu comme la Bible le parle quand ça a commencé. Là, OK, on n'a pas d'église, ben on fait ça dehors. Alors, il y a quelque chose de naturel qui s'est installé. L'Évangile, c'est vivre ensemble. L'Évangile, c'est une réconciliation, Puis c'est une incorporation. C'est que, oups, on est rendu ensemble, tu sais. Ça se peut pas, quelqu'un, ben, je veux pas être extrémiste, je veux avoir des nuances, mais ça se peut pas, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais il appartient pas à l'Église. Il y a quelque chose qui fait de pas, là. Ça marche pas, parce que l'Évangile, c'est réconciliation et incorporation. Ça vient avec. C'est ça. Le Nouveau Testament donne l'indication claire de l'humanité de Christ et manifestée au travers une collectivité. Cette collectivité, c'est nous qui sommes réunis en son nom. L'Église n'est pas une communauté d'individus qui révèrent ou vénèrent le Christ. L'Église est le Christ qui s'est formé chez les êtres humains. Moi, j'ai un malaise avec ça. Je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 2 ans. Je suis à la Macasa, puis à tous les jeudis, je donne une petite étude biblique aux détenus qui sont là. Et puis, en même temps, j'essaie de faire une pierre deux coups, dans le sens que je leur explique qu'est-ce que le sens des Écritures, mais en même temps aussi, je les apprends à pêcher, dans le sens que je leur montre toujours un peu comment approcher un texte des Écritures. Tu sais, j'avais établi une petite espèce de petite règle à chaque fois qu'on faisait une leçon. On commence par faire une observation de ce qui est écrit. Puis après ça, on va discuter d'une interprétation. Puis entre vous, vous allez décider qu'est-ce que... Puis après ça, on va regarder comment on peut appliquer ça dans nos vies. Fait que moi, j'ai commencé à leur enseigner à fonctionner comme ça quand ils approchaient les Écritures. Puis là, j'ai une dizaine de gars qui sont en avant de moi. Premièrement, il faut observer qu'est-ce qui est dit, puis s'en tenir à ça. C'est ça les faits qui est écrit. Puis faut pas essayer d'interpréter à partir des faits qui sont pas là. Fait que ça fait un certain temps qu'on fait ça. À un moment donné, je sais pas si je lisais ce texte-là ou un texte parallèle à ça, mais à un moment donné, j'ai dit l'Église est le corps de Christ. Puis là, j'ai repris, j'ai dit l'Église c'est comme le corps de Christ. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a repris. Il dit, c'est pas comme le corps de Christ, c'est le corps de Christ. C'est ça qui est marqué. Hein? C'est le corps de Christ. Fait que là, je me suis fait surprendre dans mon propre jeu. Puis là, j'ai commencé à dire une niaiserie, une platitude que je peux même pas répéter, pour me justifier d'avoir dit que c'était une analogie, puis en pensant que moi, j'en connaissais plus que lui, puis qu'il y avait une façon d'interpréter que c'était une analogie, puis c'était comme vraiment stupide. Tu sais, des fois, on commence dans une stupidité, puis on veut essayer de s'en sortir, mais on s'enfonce davantage, là, tu sais. Fait que c'est ça qui s'est arrivé avec cette situation-là, tu sais. Puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis pas senti bien avec ça, tu sais. Puis, après ça, ben j'ai réfléchi à ça, puis le lendemain, j'ai fait appeler le gars au micro. Puis là, ils l'ont appelé au micro, ça se passe comme ça là-bas, puis là, il vient, j'appelle, puis il dit, viens, il faut que je te parle, tu sais. Puis là, je me suis excusé. Je me suis excusé. Je n'ai pas expliqué pourquoi je m'excusais, mais j'ai dit qu'il avait raison. Que c'est ça que le texte dit. Que l'Église, c'est le corps de Christ. La raison pour laquelle moi, je suis mal à l'aise avec ça, c'est que j'ai, dans mes expériences personnelles, j'ai été en contact avec un aspect détestable, où j'ai été en contact avec certains éléments qui m'ont découragé par rapport à l'Église, qui m'ont déçu par rapport au leadership de l'Église ou quoi que ce soit. Et ça fait que mon interprétation des Écritures est corrompue par mon expérience personnelle. Puis ça, c'est grave. Mais on fait ça souvent. Parce que c'est vrai que l'Église n'est pas parfaite, mais c'est aussi vrai que c'est le corps de Christ. Ce qui explique peut-être le malaise que j'ai eu, puis qu'on a souvent, de faire une distinction entre le corps de Christ et l'Église actuelle. Cependant, l'Écriture ne fait pas cette distinction. Christ ne fait jamais cette distinction. Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, puis qu'il s'est retrouvé devant Christ, puis il a dit, « Qui es-tu? » Il dit, « Je suis Christ que tu persécutes. » Il n'a même pas eu une hésitation à s'associer pleinement à son Église. « Je suis celui que tu persécutes. » Quand il parle aux apôtres, il dit, quand il parle aux apôtres dans Matthieu 25, il dit, il leur rend hommage parce qu'ils l'ont visité quand il était en prison, ils ont donné à manger quand il était. Mais les apôtres, c'est ah oui, c'est vrai, quand est-ce que je suis allé le voir en prison? Tu sais, il ne me rappelle pas. Tu sais. C'est parce qu'il s'identifie pleinement à l'humanité. L'Église est le corps physique et biologique de Jésus-Christ sur la terre aujourd'hui. L'Église peut être appelée le corps de Christ parce qu'elle n'est rien d'autre. Elle n'apporte rien dans l'humanité autre que la présence de Jésus-Christ. Pas de gloire, pas d'honneur, pas de... Elle apporte la présence de Jésus-Christ. On peut dire clairement que l'Église n'est pas un organisme qui s'auto-détermine. Car en dehors de Jésus-Christ, l'Église n'existe pas. Par conséquent, elle ne peut jamais revendiquer de droit, d'autorité, de dignité, indépendamment de ceux de Jésus-Christ. Un jour, j'ai écouté j'aime bien le théologien Francis Schaeffer, puis je suis tombé sur une vieille prédication qu'il a faite il y a longtemps, ça fait longtemps qu'il est décédé, puis en tout cas, ça a été remis sur un CD, en tout cas, je suis tombé là-dessus, tu sais, puis une des rares que j'ai pu voir. Puis c'est intéressant parce qu'il a été invité à un organisme qui ont invité plusieurs théologiens pour défendre... pour expliquer comment faire des implantations d'église. Alors, toutes sortes de méthodes, de manières d'agir pour implanter une église dans telle ville, dans telle ville, dans telle ville, puis avoir une stratégie d'implantation d'église pour que... Puis trouver des méthodes miracles pour avoir, après 5 ans, 5 000 personnes, 10 000 personnes, des manières pragmatiques d'approcher, comme si l'église s'auto-déterminait. Comme si l'Église était autre chose que Jésus-Christ. Je trouvais ça intéressant parce que le Francis Schaeffer, il était invité dans cette fin de semaine-là de conférence, il était invité le vendredi soir, puis il commence la prédication en disant « Who do you think you are? » Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? Pour penser que vous allez organiser l'Église. L'Église, c'est Jésus-Christ. L'Église n'est qu'une fraction de l'humanité. Ça, c'est une phrase de Bonhoeffer. L'Église n'est qu'une fraction de l'humanité dans laquelle la réalité de Christ prend forme. L'Église est l'être humain qui a été jugé, condamné, crucifié et ressuscité à une nouvelle vie. C'est fort, hein? L'Église, c'est la fraction de l'humanité qui a été jugée, condamnée, crucifiée, ressuscitée. Avec Christ. En lui, on a été jugé, condamné, crucifié et on a la nouvelle vie en l'humanité de Christ. Le sens logique de la communauté chrétienne est de tout mettre en commun avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de communauté chrétienne qui soit plus que cela, et aucune n'est moins importante. Qu'il s'agisse d'un bref rendez-vous hebdomadaire ou d'une communauté qui vit ensemble quotidiennement depuis plusieurs années, la communauté chrétienne est uniquement cela. Nous nous appartenons l'un à l'autre à travers Jésus-Christ. Il y a plusieurs années, je suis allé à faire une retraite à Saint-Benoît-du-Lac. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà allé là. C'est comme un couvent, dans une chambre, un lavabo, puis c'est silencieux, personne ne parle. Puis, alors, j'étais allé vivre l'expérience là-bas. Puis, je trouvais ça intéressant en lisant sur l'histoire. Il disait que les prêtres bénédictins, les moines bénédictins, quand ça a commencé au Moyen Âge, ils étaient dans des endroits très retirés, éloignés, et puis c'était très rare qu'il y avait de la visite, puis ils étaient très isolés entre eux autres. Puis à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait en avant, qui venait se présenter à la porte, bien là, ils sonnaient les cloches, puis là, tous les frères bénédictins, ils s'en venaient en courant, puis ils se couchaient à terre devant la personne qui rentrait. Puis le principe, c'est que ils honoraient Christ qui est dans le visiteur. C'était ça l'idée qui est en arrière de ça. Normalement, on fait des nuances, là. Il n'est pas question que le dimanche matin, on se mette tous à se coucher à terre ici, là. Mais l'idée est là. C'est que vivre ensemble implique le fait qu'on vit avec Jésus-Christ. Et on honore la personne de Jésus-Christ dans l'autre. Des fois, ce n'est pas évident. Mais c'est ça la réalité théologique de l'Église. C'est honorer Christ dans l'autre. Jésus-Christ est la tête du corps. Ça aussi, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment fascinant comme analogie, on va dire, parce que c'est une analogie. mais c'est fascinant. Biologiquement parlant, la tête est un membre à part entière du corps humain. C'est une boîte crânienne composée d'os et dans laquelle se trouve une substance visqueuse et pas très appétissante qu'on appelle le cerveau. Le cerveau pèse en moyenne 2% de la masse corporelle, en moyenne, parce que c'est pas parce qu'on pèse 200 livres qu'il pèse plus, mais... En moyenne, c'est 2% de la masse. Et monopolise 20% de l'oxygène que produit dans le corps. Jusque-là, c'est assez simple. Vous me suivez? Ça se complique légèrement quand on examine le fonctionnement du cerveau. Les neurones, il y a des milliards de neurones qui sont interconnectés dans notre cerveau et qui transmettent leur information. Un influx nerveux qui produit des impulsions électriques et des messages chimiques qui se promènent. Il y a des centaines et des centaines de millions de neurones qui sont en fonction pour que moi, je puisse être en train de vous présenter une prédication ce matin. Et puis, il y en a encore des centaines, des milliards pour que vous soyez capable d'entendre ce que je dis, de l'interpréter, à moins que vous dormiez, il y en a-tu qui dorment? Même là, quand vous dormez, là, ça marche. Le cerveau fonctionne. Il y a deux hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est responsable des fonctions du langage, du calcul, de la logique, des traitements des informations, des activités de précision rapide, des perceptions spécifiques. Jusque-là, ça va bien. D'ailleurs, on se demande si on a besoin d'un hémisphère droit une fois qu'on a ça. L'hémisphère droit, reconnaissance des visages, émotion des expressions corporelles, perception des formes et de l'espace. contenu émotionnel du langage. Et des fois, je m'emporte là, quand je vous parle. Ça, c'est l'hémisphère droit qui produit ça. Traitement parallèle des diverses informations. Sensibilité musicale et artistique. Perception des relations entre les images et le contexte. Ça se passe ici, là. Il y a un endroit, un espace, ou en tout cas, quelque chose dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui, lui, génère les hormones de croissance, qui est le centre de la régulation thermique. Votre température, vous ne saviez pas, mais votre température est contrôlée par votre cerveau, à quelque part. Le centre de la faim, de la soif, les règles de comportement sexuel, de reproduction, les règles de comportement de plaisir et de rage. Quand on étudie ça en dépendance, on parle beaucoup de l'hypothalamus parce qu'il y a tout le circuit du plaisir puis de la récompense dans le cerveau qui fait en sorte que des gens deviennent dépendants à des substances. Puis ça, il y a un endroit dans le cerveau que maintenant, ils peuvent découvrir que c'est en action ou c'est pas en action lorsque la personne utilise des substances. Ça gère le cycle du sommeil, ça contrôle les fonctions génétiques, ça surveille les fonctions dites non, comme la respiration, les battements de cœur. Même ça aussi, c'est contrôlé par le cerveau. Qu'on se pose la question que qu'est-ce qu'on ferait sans la tête? Il ne reste plus grand-chose, là, t'sais. C'est monstrueux, en fait, pas de tête, là. Les noyaux centraux constituent le relais principal des neurones contrôlant les mouvements involontaires et la posture. Tu sais, la posture, ça fait partie de l'identité, hein? Des fois, tu vois quelqu'un de loin, puis tu vois son ombrage, tu dis « Ah, ça, c'est réel! » Ça, c'est Pasteur Jeff. Parce qu'on a toute une posture qui nous est propre. Puis même quand on n'y réfléchit pas, on est comme ça. Mais ça aussi, c'est contrôlé par le cerveau, un espace qui s'appelle les noyaux gris qui contrôlent la posture. Il traite l'information liée au mouvement comme la marche. Au fur et à mesure que les gestes se font, il module et ajuste le travail musculaire pour produire le mouvement. Ils vont jouer un rôle dans l'apprentissage et la programmation des mouvements. Alors moi, je trouve ça vraiment fascinant de voir Sylvain, chez Épaulas ce matin, là, quand il joue du piano, ou même Pasteur Réal, quand il joue du piano, parce que moi, je ne suis pas un musicien, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont capables de sortir des notes qui ont de l'allure ensemble, une à la suite de l'autre. Là. Mais en plus de ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils font ça de manière automatique. Tu sais, des fois, Sylvain, il joue du piano, puis... Salut, puis continue à jouer du piano. Comment il fait? Il sait pas que sa main droite a fait, puis ça, c'est tout automatique, ça fonctionne, puis il n'a même pas besoin d'y penser. Comment vous faites? C'est incroyable. Moi, ça m'impressionne. Ça vient du cerveau. C'est lui qui produit ces choses-là. Fait que quand on dit que Christ est la tête du corps, ça implique toutes sortes de choses dans notre vivre ensemble. Ça nous permet de comprendre comment Dieu agit. Puis ça nous permet de comprendre qu'il prend soin de ses membres. Un membre prend soin de l'autre membre, puis bien souvent, c'est coordonné par le cerveau qui est là. J'ai vécu une expérience il y a 20 ans de ça. Étant donné que je ne prêche pas souvent, j'ai un grand répertoire d'histoire. Ceux qui me connaissent l'ont probablement déjà entendu. Mais il y a 20 ans à peu près, ou peut-être même plus que ça, à un moment donné, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit. Je n'étais pas capable de dormir, je ne savais pas pourquoi. Fait que je m'assis, puis comme j'ai l'habitude, je commence à prier, puis à marcher De long en large, mais là, je suis fatigué, là, je m'assis juste à côté du téléphone, puis j'attends, je m'assis sur un petit banc rond, à peu près gros comme ça, puis je m'assis, puis là, je réfléchis, pourquoi je pourrais aller dormir, puis tout ça, tu sais. Puis là, ding, le téléphone sonne, c'est à côté de moi, OK, je prends la ligne. Puis là, c'est mon beau-frère qui m'appelle. Mon beau-frère, il a une maladie cardio-poumon. Il est obligé d'avoir une transplantation. Ça fait plusieurs mois qu'on y annonce l'Évangile. Puis on prie pour lui. Puis j'avais dit, quand ça va arriver, le temps de l'opération, ben appelle-moi, on va prier pour toi, puis tout ça. Fait que c'est là qu'il m'appelle. T'sais. Fait que là, moi, je fais le lien, je viens de me réveiller, je suis tout habillé, je suis toute prête. Fait que je sens que je dis, OK, mais où t'es? Puis il dit, j'arrive. Puis il dit, OK, viens-t'en. T'sais, parce que là, j'ai oublié de vous dire qu'il m'a appelé pour me dire qu'il était pour recevoir un cœur puis un poumon. Qu'il était pour être opéré d'ennui, d'urgence, parce que là, il y avait un donneur qui était là. Fait que là, moi, je réponds au téléphone, j'arrive sur place à l'hôpital. J'ai pas le temps de me préparer rien. Je rentre dans la chambre. Puis il y a 5 personnes de sa famille qui sont là, une autre belle-sœur, mon beau-frère. Puis là, il rentre, puis il me dit, je vais me faire opérer dans 15 minutes. Qu'est-ce que tu as à me dire? Fait que si tu as quelque chose à me dire, dis-le, là. Je ne sais pas, là. OK, je n'ai pas emmené ma Bible. J'ai dit... Je veux juste te dire que peu importe le résultat de l'opération, tu peux savoir maintenant si tu vas avoir la vie éternelle. Tu peux vivre maintenant éternellement. Puis là, j'ai récité Jean 3,16. Puis, je n'ai pas à peine le temps de réciter Jean 3,16 que... Non, là, il me demande de prier. On prie. J'ai à peine le temps de terminer ma prière que la porte s'ouvre. L'infirmière rentre en vitesse. Elle dit « changement à l'horaire, bousculation, on s'en va, on l'emmène en opération. » Là, OK, mais là, lui, il était rassuré. On l'emmène, on suit dans des grands corridors d'hôpital. On le suit en arrière comme on est 5-6 à suivre. Là, les infirmières le poussent, sont pressées, ça se bouscule, tout va vite. Puis là, lui, il est là, puis à un moment donné, il tourne le coin. Là, il dit « OK, dites-lui ». Au revoir, parce que là, il se retourne, puis là, toute la famille, on est là, on est tous étonnés parce qu'il y a un visage qui est rayonnant. Puis même ceux de ma famille qui ne sont pas chrétiens, ils disent, moi, il y a vraiment quelque chose de spécial là, dans son visage, là, il est vraiment rayonnant. Puis là, il avait l'air de quelqu'un qui s'en allait dans le manège la ronde, là, tu sais. Là. Puis là, je m'en retourne chez nous, puis je reviens satisfait, puis je m'en vais me coucher. Puis le lendemain matin, je reçois un téléphone qui dit « il est décédé ». Mais moi, je suis content. Parce que le cerveau, là, il a fait fonctionner quelque chose, là. Que j'ai aucune idée c'est quoi, là, mais il a coordonné une action. Christ est la tête de l'Église. Et il sait prendre soin de ses enfants. Et il sait utiliser un membre pour prendre soin d'un autre membre. J'ai dépassé mon temps. Mais je veux juste terminer en disant que le vivre ensemble de l'Église, la Bible parle, devrait s'appuyer sur ces vérités-là. Christ est devenu un homme. Et il pose des actions d'homme au travers des hommes. Nous avons été, moi et Maryse, ici, témoins de Christ, de l'amour de Christ au travers votre accueil chaleureux, votre main chaleureuse. à l'Église, où vous nous avez accueillis. Vous avez été la main de Christ qui nous a accueillis. Vous avez été les bras de Christ qui nous ont consolés. Vous avez été le corps physique de Christ pour nous. Et j'aimerais que dans l'Église, dans mon Église, à la Bible parle, on puisse appuyer le vivre ensemble sur ces réalités que Christ est le corps de l'Église et qu'il en est la tête. Prions ensemble. Seigneur, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on s'approche de toi en reconnaissant que que tu es l'Église, que nous sommes ton corps, et que par la foi en toi, Seigneur, nous avons été crucifiés. Nous avons déjà été jugés, nous avons été crucifiés, et nous sommes ressuscités avec toi. Nous avons la vie éternelle. Et on aimerait, Seigneur, que cette réalité puisse se manifester ici, dans cette Église, dans ton Église, pour que la gloire du nom de Jésus-Christ soit révélée en nous. Mène à l'accomplissement, Seigneur, notre désir de faire le bien. Accomplis au travers de nous les œuvres que tu as déjà préparées d'avance depuis toute éternité, et qu'ainsi la gloire du nom de Jésus-Christ soit révélée en nous. Amen. Merci.